VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal politique en RDC. Le gouvernement congolais a dénoncé ce mercredi une avalanche de pression extérieure sur son processus électoral, dicté selon Kinshasa par la convoitise que suscitent à l'étranger les immenses ressources naturelles stratégiques de la République démocratique du Congo. Après le caoutchouc, le cuivre et le coltan, respectivement, ce sont nos réserves en cobalt qui nous valent ces intrusions malveillantes, a déclaré lors d'une conférence de presse aujourd'hui le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende. Les États-Unis, l'ONU et la France ont pris note de l'échéancier électoral congolais prévoyant des élections en décembre 2018. Un calendrier rejeté par l'opposition et des secteurs de la société civile congolaise qui exige le départ du président Joseph Kabila dès le 31 décembre 2017. Dans un communiqué du département d'État américain, Washington a instamment demandé au président Kabila de quitter le pouvoir après les élections prévues dans le calendrier électoral. Pour l'ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Herman Cohen, l'avancée en RDC résulte des efforts de Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU.
C'est une victoire pour Mme Haley. Mais en même temps, Mme Haley a dit qu'il faut qu'il y ait une élection tôt dans l'année 2018. Comme c'est tard, c'est une déception. Mais quand même, je crois que Mme Haley a fait une ligne rouge. Il faut qu'il y ait une élection démocratique. Il ne faut pas que le président Kabila se représente comme candidat et il faut que tout le monde soit éligible, y compris les prisonniers politiques et les gens comme Moïse Katumbi qui sont en exil. Donc s'il y a encore de la glissement, il y aura des sanctions plus hautes, je suis sûr.
Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. La guerre RDC fait grossir le flot des réfugiés en Zambie. Ces derniers passent la frontière commune pour fuir la guerre, les meurtres et les viols. Plusieurs milliers de ressortissants de la République démocratique du Congo ont cherché refuge ces dernières semaines en Zambie voisine, qui peine à les accueillir. La plupart des quelques 6000 personnes recensées par les autorités de Lusaka sont originaires des provinces du Haut-Katanga et du Tanganyika, dans le sud-est de la RDC, en proie à des affrontements entre l'armée régulière congolaise et des milices. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, cette vague de réfugiés est la plus importante depuis 5 ans en Zambie. Au Cameroun, deux gendarmes ont été abattus mardi soir parce que le gouvernement appelle des terroristes sécessionnistes à Bamenda, dans le nord-ouest du pays, l'un des épicentres de la contestation anglophone, ce qui porte à 3 le nombre de gendarmes abattus dans cette région en 2 jours. Le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Tchiroma Bakari, également ministre de la Communication, a affirmé ce mercredi à l'AFP, et je cite, « Les terroristes sécessionnistes ont tué 2 gendarmes cette nuit à Bamenda ». M. Tchiroma a souligné que les assaillants ont abattu les gendarmes avec des armes de guerre et se sont enfuis en emportant les armes des victimes. En RCA, plus de 1200 anciens combattants de l'ex-Seleka, occupant 3 casernes dans la capitale Bangui, ont été sommés de partir par le gouvernement. Certains refusent d'obtempérer au moment où l'ONU veut augmenter ses effectifs de paix dans le pays, John Lindon.
En décembre 2013, près de 3000 rebelles de l'ex-Seleka sont entrés à Bangui pour chasser le président François Bozizé et occuper des casernes militaires. Depuis le départ en exil de Michel Djotodia, certains combattants sont rentrés chez eux, mais environ 1200 occupent toujours 3 casernes. Ils refusent de partir malgré une enveloppe de 100 000 francs CFA offerte à chacun d'eux par le gouvernement. Ces membres de l'ex-Seleka exigent 2 millions de francs CFA pour intégrer le processus de désarmement soutenu par l'ONU. Le Conseil de sécurité est appelé le 15 novembre à renouveler le mandat de la MINUSCA. Antonio Guterres, patron de l'ONU, a demandé un renfort de 900 casques bleus supplémentaires. Ce renforcement n'a toujours pas reçu l'adhésion des États-Unis, plus grand contributeur de fonds des Nations Unies.
Cornée de l'Afrique, la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM, a annoncé qu'elle retirerait 1 millier de ses 22 000 soldats dans ce pays cette année dans le cadre d'un plan prévoyant son retrait complet d'ici décembre 2020. Cette annonce a été faite par le représentant spécial de l'Union africaine en Somalie, Francisco Madeira, dans un communiqué publié mardi. La mission missait 22 000 hommes venus d'Ouganda, du Burundi, de Djibouti, du Kenya et d'Éthiopie a été déployée en 2007 pour soutenir le fragile gouvernement central somalien contre les militants islamistes Shebab.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Libéria, quatre partis ont mené hier des pourparlers pour unir leurs efforts pour soutenir la candidature à la présidence du vice-président sortant Joseph Boakai face à celle de l'ancienne star du football George Weah. Des détails avec Yacouba Ouedraogo.
Robert Padé, président du parti de l'unité de Joseph Boakai, a expliqué que ces discussions concernent une union de quatre partis, tous arrivés derrière George Weah. Ils disent vouloir s'unir pour défendre la démocratie. Nous pensons clairement que Weah ne peut pas diriger ce pays, a ajouté M. Padé. Une conférence de presse du parti de George Weah, prévue hier, a été annulée. Les discussions se sont déroulées le jour où devait en principe se tenir le second round de la présidentielle entre George Weah et Joseph Boakai. Le processus électoral a toutefois été suspendu par la Cour suprême qui a ordonné à la Commission électorale nationale d'examiner des recours avant de fixer une nouvelle date pour le second tour. Arrivé en troisième position derrière George Weah et Joseph Boakai, Charles Brunskain, l'un des plaignants, a dénoncé des fraudes et des irrégularités lors du premier tour. Le report du second tour fait peser des incertitudes sur la première transition démocratique dans ce pays qui a connu l'une des plus atroces guerres civiles du continent.
Et pour terminer ici aux États-Unis, grande victoire des démocrates en Virginie et au New Jersey où se tenaient hier des élections pour les postes de gouverneur de ces États. Que signifient ces victoires dans l'ère Trump? Un an après l'élection du président Trump à la Maison-Blanche, l'explication du professeur Souleymane Béchir Diagne de l'Université Columbia à New York au micro d'Idrissa Sedoudia.
Oui, comme vous venez de l'indiquer, effectivement, c'est quasiment l'anniversaire de son élection. Et voilà deux élections de gouverneur qui sont autant de victoires et des victoires beaucoup plus faciles en fait que prévu pour les démocrates. Cela est excellent augure évidemment pour les démocrates qui ont les yeux fixés sur les élections prochaines de 2018 à mi-mandat et qui évidemment ont salué cette victoire-là comme étant un signe annonciateur du redressement du Parti démocrate.
Le président Trump a lui-même réagi en disant que Ed Gillespie a travaillé dur mais ne s'était pas pleinement associé à moi ni à mes idées. Il se trouve que Gillespie est un membre de l'establishment mais il a trouvé une solution assez originale quand il s'agit de Donald Trump, adopter ses idées et ses positions tout en le tenant à l'écart. Et on pensait que ça allait marcher.
Ben oui, justement, alors, on a appelé ça du Trumpisme sans Trump. C'est Bannon, d'ailleurs, qui a été conseiller de Donald Trump, qui a utilisé cette expression. Justement, parce que comme il a fait du Trump, surtout dans la dernière partie de sa campagne, il a d'autant plus transformé cette élection en une sorte de référendum pour ou contre Trump. Parce que, précisément, il a fait campagne sur des thèmes qui sont les thèmes sur lesquels Trump avait lui-même construit sa victoire. Et par conséquent, d'une certaine façon, c'est le Trumpisme lui-même qui était en jeu. C'est ce que les démocrates ont vu. Alors, il est normal que le président Trump ait tweeté ce qu'il a tweeté, parce que justement, il fallait se défendre de cette idée et au contraire, de dire que c'était parce que Gillespie n'avait pas assez, ne s'était pas assez engagé dans la ligne qu'il représente, qu'il a perdu. Donc c'est vraiment une manière de regarder, de tenir un certain tour à l'élection pour essayer d'en détourner la signification.
Et de façon générale, comment est-ce que les démocrates pourraient-ils maintenant exploiter ces deux victoires? Parce que quand même, ils ont perdu aussi dans d'autres élections, comme en Géorgie, il n'y a pas longtemps.
Oui, alors que ces élections avaient été annoncées comme étant des tests, ils avaient perdu ces tests-là. Cette fois-ci, je crois qu'ils vont analyser de manière très précise ce qui s'est passé en Virginie. C'était un candidat relativement modéré qui a gagné. Donc c'est une indication, je crois. Ça va être une indication pour les démocrates. C'est la meilleure manière possible de choisir leur propre candidat et leur discours pour pouvoir espérer gagner les élections prochaines.
Le professeur Souleymane Diagne de l'Université de Columbia à New York. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.